Déjà, historiquement, si on regarde le monde occidental a une relation difficile avec les chamans ou les autres peuples et les autres cultures, et ça fait plus que 500 ans que ça dure. Et si on se penche sur ce que les Occidentaux ont pu dire et penser sur les chamans, on voit qu'il y a eu toutes sortes de croisements ou de projections ou de difficultés à comprendre l'autre. Et on a fini par projeter toutes sortes de choses sur ces autres. Je vais vous donner des exemples. Lorsque les Européens sont montés dans leur bateau et sont partis à la conquête du monde au XVIe siècle, il y avait donc des canons et des glaives, mais il y avait aussi des plumes et du papier et des observateurs, souvent des hommes de religion, catholiques ou protestants, peu importe. Et quand ils sont arrivés au Brésil ou sur les quatre autres continents, ils ont trouvé des drôles de gens qui disaient communiquer avec les esprits de la nature. Et ils les ont appelés des ministres du diable. Et au XVIe siècle, c'était un jugement assez lourd parce qu'on était en pleine Inquisition. Et les écrits que les Européens ont pondus sur ces charlatans, jongleurs, ministres du diable, prestidigitateurs, en fait, il manquait un mot. On a dû importer un mot sibérien au XVIIe siècle, qui est le mot chaman, pour étiqueter ces gens-là. Et pendant 200 ans, on les a vus surtout comme des ministres du diable. Notez que les hommes de bonne religion estimaient que ces gens-là étaient des ministres du diable, donc le contraire de nous. Très bien. On arrive au XVIIIe siècle, les Lumières, la naissance du rationalisme. Ici à Paris avec Diderot, et on a la première définition du mot chaman dans une langue européenne, en français, dans l'encyclopédie de Diderot en 1765. Les chamans sont des imposteurs qui prétendent communiquer avec le diable, mais qui trompent un peuple superstitieux et imbécile. Voilà la première définition du mot chaman. À ce moment-là, le mot chaman a déjà été extrait par les observateurs occidentaux de la Sibérie et est devenu une étiquette transculturelle pour nommer tous ces gens dans ces autres cultures qu'on ne comprend pas très bien. On note que les premiers rationalistes, ce qu'ils ont projeté sur ces chamans était l'idée qu'ils étaient des imposteurs. Donc on a encore affaire à une projection du contraire. Les premiers rationalistes estimaient qu'ils avaient un monopole du vrai savoir et ces gens-là étaient des imposteurs, c'est-à-dire le contraire d'eux-mêmes. Je vous disais que c'était une longue histoire. Les 400 premières années de production de textes sur les chamans ou des gens qu'on allait appeler chamans par des Occidentaux, c'est 400 ans d'incompréhension où on apprend surtout, on apprend plus en lisant ces écrits-là sur les présupposés de ceux qui écrivaient le texte que sur les chamans eux-mêmes. Et c'est seulement avec la naissance de l'anthropologie à la fin du XIXe siècle, avec des gens comme Franz Boas, qu'on a commencé à avoir déjà des observateurs occidentaux qui affinaient leur regard. Boas a dit en 1900, l'étudiant d'anthropologie doit faire deux choses, observer les autres dans leur altérité tout en prenant en considération ses propres présupposés, sinon il risque de les projeter sur le sujet d'étude. Donc, si vous voulez sortir de votre culture et aller dans une autre culture et observer les autres dans leur altérité et commencer à comprendre ce qu'ils font, il faut faire ce double exercice. Et à partir du moment que l'observation de l'autre s'est professionnalisée dans une anthropologie au XXe siècle, on a commencé à avoir des descriptions de chamans qui étaient un peu plus neutres et un peu plus remplies d'informations. Mais on voit donc que le regard judéo-chrétien puis rationnel du monde occidental effectue une sorte de drôle de tango avec les chamans depuis longtemps. On arrive donc au XXe siècle, on a le matérialisme triomphant, le monde industriel, des guerres mondiales, l'industrie chimique, la domination de la matière, le monde moderne, les chemises en nylon, enfin, toutes ces splendeurs. Et on a la naissance d'Occidentaux qui commencent à fatiguer de toute cette technologie, de toute cette matière, de tout ce modernisme. Et à ce moment-là, les chamans ont commencé à incarner ce qui était le pré-moderne, la nature, le pré-industriel.